Vous écoutez Fréquence Mistral, il est 11h, nous sommes en direct de Marseille pour une émission spéciale et nous retrouvons François Malaba. Bonjour François.
Bonjour Patrice, bonjour à tous, vous êtes bien sur Fréquence Mistral. Nous sommes en direct de l'hôtel de région à Marseille pour une heure d'émission exceptionnelle. Nous allons parler d'économie sociale et solidaire, secteur d'activité en plein essor qui s'inscrit totalement dans l'économie régionale. Et aujourd'hui, outre notre plateau et cette émission, le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur accueille un forum très fourni consacré aux métiers, emplois et stages dans la mutualité, un secteur important de l'ESS. Nos invités vous le diront dans un instant. Au rang de ceci, des personnalités que je remercie pour leur participation à ce moment radiophonique et qui évoqueront cette économie particulière, attachée à servir les hommes et les territoires. Chacun s'exprimera dans son domaine d'activité et dans les fonctions précises. Je leur demande bien sûr d'être concis et le plus clair possible, par exemple, de ne pas trop utiliser des sigles et termes trop hermétiques et que nos auditeurs ne comprendraient pas. À propos d'auditeurs, je signale aussi que cette émission est diffusée sur plusieurs radios en région et sera disponible via le réseau de la FRASE, la Fédération des radios associatives du Sud-Est, et Fréquence Mistral, en téléchargement pour qui le souhaite. Bonne émission. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. J'ai le plaisir d'accueillir Michel Trégan, conseillère régionale déléguée à l'économie sociale et solidaire. Bonjour madame.
Bonjour.
Et merci de nous accueillir et d'accueillir notre radio dans les murs de l'hôtel de région. Première question toute simple, que représente l'économie sociale et solidaire dans la politique régionale ?
Elle représente, j'allais dire, le cœur de l'accompagnement à l'économie régionale. Pour être plus juste avec la réalité, la région accompagne l'économie sociale et solidaire depuis longtemps, depuis 1998. Mais à cette époque, c'était une économie qui était vue de manière un peu marginale par l'économie classique. Et certains la voyaient comme une économie de réparation, comme une économie des pauvres. Ce qui est complètement faux, parce que quand on connaît l'histoire de l'économie sociale, ça a toujours été une économie en réaction à l'économie financiarisée, à l'économie capitaliste, dont le seul objectif est d'enrichir certains. C'est une économie qui a toujours été au service de l'homme. Les choses ont évolué, et la crise de 1998 y a eu sa part. Et maintenant, l'économie sociale et solidaire, et là, dans ce mandat aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire fait partie intégralement de l'économie tout court. Elle fait partie de notre schéma régional de développement économique. Et nous travaillons dans une logique, comme disent, vous avez dit qu'il ne fallait pas utiliser des termes techniques, là j'emploie un terme qui est, je pense, compréhensible par nos auditeurs, dans une vision inclusive. Dire que l'économie sociale et solidaire, c'est pour certains d'abord les statuts, les associations, les mutuelles, les coopératives, les fondations. Mais pour nous et pour la loi de l'économie sociale et solidaire qui est maintenant opérationnelle.
Nous allons en parler dans cette émission, vous vous en doutez.
Voilà, donc en cohérence avec cette loi et compte tenu de l'évolution que nous avons vue de ce qu'est ce secteur de l'économie sociale et solidaire, nous sommes dans une vision inclusive. Cela se décline aussi dans la volonté de la région d'encourager une économie socialement responsable. C'est-à-dire que toute entreprise qui se réclame d'un certain nombre de valeurs, notamment au service de l'homme, mais aussi avec une utilité sociale, au service des territoires, tout ces entreprises qui travaillent pour le bien public, nous les mettons dans le secteur de l'économie sociale et solidaire et nous les encourageons avec un certain nombre de dispositifs qui ont d'ailleurs évolué tout récemment.
Alors justement, on est malheureusement en crise économique, je ne vais pas vous l'apprendre. Comment une collectivité territoriale, comme une région, notamment donc la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, peut s'adapter, peut continuer malgré tout à soutenir ce secteur d'activité ?
Alors, soutenir ce secteur d'activité qui est multiple, hein, il intervient dans tous les secteurs, dans l'industrie, dans la santé bien évidemment, et on va en parler, dans le logement, dans le bâtiment, de tous les secteurs d'activité peuvent se référer aux valeurs de l'économie sociale et solidaire. Ce qu'on sait en revanche, c'est que c'est un secteur qui a parfois des emplois précaires, que les salaires ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'attendent les salariés. Et il nous faut donc, et c'est un enjeu majeur pour nous, accompagner le développement des compétences des acteurs de l'économie sociale et solidaire, soutenir l'entrepreneuriat, en renforçant notre schéma régional d'accompagnement, développer aussi les outils financiers qui les accompagnent, définir des coopérations entre les entreprises classiques et les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Faire en sorte aussi qu'il y ait une évolution en matière de reprise notamment des statuts dès lors que les salariés revendiquent de s'organiser en coopérative ou en SIC pour reprendre leur activité. Le secteur des coopératives est un secteur qui existe dans notre région, que la loi sur l'économie sociale et solidaire entend de développer considérablement. Nous sommes, nous aussi, dans cette logique-là, à la fois pour la création de coopératives, mais aussi pour la reprise avec mode de gouvernance.
Alors, Michel Trégan, vous me tendez une perche là que je ne peux pas ne pas saisir. Vous avez suivi de près l'opération, entre guillemets, Fralib, dans les Bouches-du-Rhône. Et dernièrement, la semaine dernière, en région, a été votée une avance pour soutenir la démarche des salariés de Nice Matin. C'est un secteur qu'on connaît bien, puisque c'est de la presse quotidienne régionale, qui est en grande difficulté. Des salariés qui veulent se monter en SIC, en société coopérative d'intérêt collectif. La région les aide en leur prêtant 2 millions d'euros à taux zéro, c'est important. Ça veut dire aussi que tout simplement le Conseil régional est attentif à ces démarches sociales de composition et de recomposition, en plus en tout cas d'un quotidien ô combien important comme Nice Matin.
Bien sûr que la région est attentive à ce type de problème. Il y a un gros millier de salariés à Nice Matin. Il y avait une petite centaine à Fralib. C'est des emplois emblématiques. C'est des emplois qui ont été victimes du capitalisme financier. Donc dès lors qu'il y a des pistes de solutions, nous devons de les encourager et de tout faire pour que ce soit une réussite. Après, l'histoire nous montrera si les salariés organisés avec l'accompagnement de la région peuvent construire des modèles économiques viables.
La contrepartie ne sera pas une contrepartie éditoriale ?
Non, sûrement pas.
Donc c'est une garantie pour l'indépendance de la presse. C'est
important
aussi.
Pour nous, l'enjeu, c'est le maintien d'emplois dans le secteur industriel agroalimentaire dans le cas de Fralib et dans le secteur de la presse pour le cas de Nice Matin. Mais en aucun cas, il ne s'agit de mettre la main sur un journal. Ça n'est jamais venu à l'idée ni du président Vauzelle ni de la majorité régionale.
C'est bien, une bonne chose. Michel Trégan, vous êtes présent à cette journée particulière qui est organisée par la mutualité et par ses partenaires, notamment la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Quel regard vous portez sur toute cette activité au sein du Conseil régional aujourd'hui ?
Un regard à la fois très attentif et très enthousiaste, parce que je suis convaincue, mais avec mes collègues de la majorité régionale et avec de plus en plus de monde, que ce secteur est un secteur d'avenir. C'est un secteur qui embauche, c'est un secteur qui ne délocalise pas, et c'est un secteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui peut se développer dans tous les secteurs d'activité. Donc cette journée qui est à l'orée du mois du 12e mois d'économie sociale et solidaire est pour nous un enjeu majeur parce qu'il permet de mettre en lumière tout ce qui se passe dans ce secteur et qui n'est pas assez connu de vos auditeurs et du public en général. Donc mieux communiquer sur l'économie sociale et solidaire, mieux faire connaître ses opportunités, recruter des jeunes talentueux pour qu'ils permettent à ce secteur d'innover. Pour nous, l'économie sociale et solidaire, c'est aussi un secteur d'innovation. L'innovation n'est pas que technologique, elle est aussi sociale, et notre société a besoin de cette innovation-là, plus que jamais, et dans le domaine de la santé, et ça sera abordé, je pense, par les intervenants suivants, dans le secteur de la santé, c'est un enjeu majeur. Deux mots, si vous permettez, pour conclure, l'attachement que nous avons à l'ancrage territoriale de l'économie sociale et solidaire. Nous avons accompagné depuis longtemps, depuis 3 ans, des contrats locaux de développement d'économie sociale et solidaire. Dès lors qu'une collectivité sur un territoire considère que ce secteur doit être particulièrement accompagné et doit se développer, parce qu'il répond à des besoins du territoire, parce qu'il permet de mettre en synergie différents acteurs et aussi les acteurs de l'économie classique, entre guillemets, l'économie marchande. Tout cela nous paraît gage de développement du territoire, développement économique, développement de la citoyenneté, développement de la solidarité, et nous les accompagnons avec des aides territoriales, et nous espérons que ce mot d'aide-là, notamment dans le secteur rural, enfin rural, il n'y a plus vraiment de rural, mais hors des grandes métropoles, pourra se développer, et nous souhaiterions aussi que les métropoles puissent s'investir beaucoup plus dans ce secteur.
Merci beaucoup, Michel Trégan, de votre intervention. Juste vous dire que cette intervention, elle est entendue à Briançon, par exemple, qui est un secteur rural. C'est la ville la plus éloignée de la métropole marseillaise. Et c'est un symbole que nous atteignons avec Fréquence Mistral et qui me semble tout à fait digne d'intérêt et pertinent. Merci encore de votre intervention et de votre accueil ici même.
Merci à Fréquence Mistral de faire la promotion de l'économie sociale et solidaire en région.
Merci Michel Trégan à nos côtés, et ce sera le grand témoin de notre émission, Denis Philippe, qui est le vice-président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et qui connaît particulièrement bien et la mutualité et l'économie sociale et solidaire. C'est aussi un ami de la radio et un haut alpin que je salue. Bonjour Denis.
Merci François, bonjour.
Un témoignage donc d'une personne qui connaît fort bien la mutualité. Cette journée, ça a été lourd à organiser, mais en même temps, c'est un point important puisque la mutualité investit entre guillemets le conseil régional et la maison commune de la région.
Vous savez, François, en écoutant tout à l'heure Michel Trégan, je repensais à cette formule qu'on utilise régulièrement de dire que les entreprises de l'économie sociale ne sont pas des entreprises comme les autres, et pourtant, comme les autres, elles sont des entreprises. Et véritablement, on a l'opportunité aujourd'hui d'affirmer un certain nombre de choses, de prendre tout à fait notre place, parce que nous avons un socle de départ qui est la loi sur l'économie sociale et solidaire. Maintenant, la loi sur l'économie sociale et solidaire n'empêchera pas les acteurs de s'organiser. Il faut qu'ils s'organisent. Et je sais que c'est ce qu'ils vont faire. Dedans, la place de la mutualité, elle est importante. C'est vrai que c'est un acteur historique, la mutualité. Mais peut-être que la mutualité n'a pas fait bien le travail pendant un certain nombre d'années, qu'elle n'était pas assez présente, assez ouverte sur l'extérieur. Et qu'aujourd'hui, il est tout à fait logique, normal, qu'elle reprenne toute sa place à côté des autres acteurs de l'économie sociale et solidaire. Alors, il y a les acteurs historiques. La mutualité est une composante historique. Il y a le secteur de la coopération. Il y a les associations, évidemment, dans cette région que nous connaissons bien et qui représentent un point important. Il y a également les fondations. Et puis, demain, avec la loi, il y aura d'autres acteurs. Et tout ça, ça va composer un peu notre paysage. Je voudrais aussi peut-être faire un peu de provocation. L'économie capitaliste classique telle que nous la connaissons, au fond, on l'a connue véritablement, elle a pris une importance au 19e siècle. Mais avant, il y avait bien des modèles économiques qui existaient avant l'économie capitaliste, et l'économie sociale était d'ailleurs un secteur économique qui existait. On peut très bien imaginer demain d'autres modèles, et on peut très bien imaginer demain qu'une réforme de société fasse que l'économie capitaliste ne soit pas forcément l'économie qui réponde. Moi, je vois très bien chez les jeunes un intérêt à ce qui se passe dans l'économie sociale et solidaire, et je vois une réaction actuellement dans la société de jeunes qui n'ont plus envie d'entreprendre de la même façon. Je suis frappé de voir que des gens qui avaient des positions importantes dans de grosses sociétés, qui étaient des capitaines, qui avaient véritablement un rythme de vie fou, reviennent, abandonnent tout et reviennent à des activités qu'ils pensent être plus porteuses de valeurs. Bah, je crois que nous, l'économie sociale et solidaire, nous sommes porteurs de ces valeurs et que c'est à nous qu'il appartient de les affirmer.
Merci Denis, on vous retrouve en fin d'émission pour parler de tout cela et nous donner votre avis surtout sur tout ce qui se sera échangé pendant cette émission particulière. J'ai le plaisir d'accueillir, et pour parler métier notamment dans la mutualité, d'accueillir Valérie Defauquet. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Vous êtes responsable de l'Observatoire de l'emploi et des métiers de la mutualité. Pour commencer d'abord, un bref rappel. Très brièvement, ce qu'est la mutualité et quels sont les métiers dans ce secteur.
Bien, je vous remercie en tout cas de m'accueillir dans cette instance. La mutualité, en fait, c'est une société en fait qui propose des services aux particuliers, à la fois des services d'assurance de personnes. Et en tout cas d'assurance en matière de santé. Donc ça, c'est les deux parties qui nous intéressent. La caractéristique de la mutualité, c'est qu'elle s'appuie sur la solidarité et qu'elle ne propose pas à ses adhérents le fait d'être actionnaire. Donc c'est important, en tout cas, quand on s'intéresse à cette société, notamment par rapport à ce que vous disiez, monsieur. Voilà. Alors, les mutuelles sont réparties dans toutes les zones en France. Donc, il n'y a pas de particularité en tant que telle sur une zone d'emploi en spécifique. Toutes les zones d'emploi sont implantées de mutuelles.
Donc, les territoires ruraux, par exemple, peuvent être impactés par les recrutements qui se passe au sein des mutuelles.
Les territoires, pardon ?
Les territoires ruraux.
Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a des territoires ruraux, notamment, qui peuvent être impactés par les recrutements dans les mutuelles, notamment en ce qui concerne le livre 3, les réalisations sanitaires et sociales.
Alors, il faut nous expliquer. Niveau 3, ça veut dire ?
Alors, le livre 3, ça concerne les réalisations sanitaires et sociales. En fait, on a deux types de choses en fait en mutualité. On appelle le livre 2 qui concerne l'assurance de personnes et le livre 3 qui concerne les réalisations sanitaires et sociales. Donc, il y a le livre 1, mais bon, j'en parlerai pas. Le livre 2 et le livre 3, ce sont deux activités concernant la mutualité.
Oui, je crois que c'est important, au point où madame intervient, c'est important ce qu'elle vient de dire. Pour bien expliquer, la mutualité, ce n'est pas une mutuelle. La mutualité, c'est une fédération et elle fédère des mutuelles. C'est-à-dire, les mutuelles sont sur le terrain des entreprises de l'économie sociale, elles sont concurrentes, il faut se dire les choses. Mais la fédération, elle arrive à les regrouper sur le dénominateur commun et sur les valeurs que doit porter la mutualité en tant que mouvement social. Ce qui est important aussi, et c'est ce qu'a dit madame et je voudrais rebondir, la particularité de nos mutuelles, c'est que l'adhérent, le client de la mutuelle, il est également celui qui prend les décisions, il est le politique de la mutuelle. Ça, c'est une particularité.
Donc, il a un rôle actif.
Voilà, c'est-à-dire que celui à qui on sert la prestation, quelque part, il est aussi au pilotage de l'entreprise mutualiste qui est la mutuelle.
Valérie Defauquet, est-ce qu'il y a des formations et des profils spécifiques pour travailler dans une mutuelle ?
Alors, depuis une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, les mutuelles sont confrontées, évidemment, à un bouleversement, à la fois qui tient à l'Europe, puisque solvabilité 2, qui impose des seuils de solvabilité aux mutuelles, fait que l'ensemble des mutuelles se regroupent actuellement. Donc ça, c'est un premier point qu'il faut prendre en compte. Ensuite, on a un point qu'il faut prendre en compte, c'est la concurrence. C'est qu'on est dans un système où, maintenant, les banques, les assurances peuvent dispenser des produits de mutualisme, enfin pas mutualistes en tant que telles, mais peuvent dispenser des produits, les produits que les mutuelles avaient le choix de dispenser auparavant. Donc c'est un certain nombre de contraintes externes qui font que dans les mutuelles, il y a une modification en tant que telle du contenu d'emploi. C'est-à-dire qu'elles sont en train de développer, elles développent depuis maintenant une dizaine d'années, tout un pan d'activité autour de la gestion de l'adhérent, autour de la du front office, donc autour de du conseiller mutualiste, du téléconseiller, tout un pan d'activité qu'elle n'avait pas jusqu'alors l'occasion de développer. Donc tout un pan d'activité qui se développe et qui concerne le front office. Hein, donc voilà. Et puis ensuite tous les métiers qui sont dans les mutuelles, donc gestionnaires, etc. Tous ces métiers se modifient. Ils se modifient parce que les contraintes externes sont différentes, parce que notamment les couples se font et se refont, et du coup ça fait une gestion différente en tant que telle de l'activité liée à la gestion de l'adhérent. Donc c'est un certain nombre de métiers qui se modifient en tant que tels. Et puis il y a bien sûr toute une partie des actifs qui vont partir à la retraite, et donc comment effectivement les mutuelles vont être amenées à recruter un certain nombre d'étudiants, de personnes pour remplacer ces actifs qui sont qui partiront à la retraite.
C'est un sujet que nous allons aborder tout à l'heure, évidemment, avec la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup, Valérie de Fauquet, de cet éclairage. À vos côtés, un partenaire essentiel quand on parle recrutement, embauche, formation ou métier. Virginie Séclé, bonjour Virginie Séclé.
Bonjour.
Vous représentez Pôle emploi. Les besoins sont réels. Les demandeurs d'emploi le savent-ils que l'ESS recrute ?
Oui, aujourd'hui, ils ont tous été informés en région PACA.
Parlez plus près de votre micro, s'il vous plaît.
Ils ont tous été informés en région PACA de cette manifestation. On a envoyé des emails et des mailings, des affiches dans tous nos sites Pôle emploi.
Voilà. Donc généralement, l'information passe bien au niveau des demandeurs d'emploi. Cette journée, évidemment, c'est un moment fort. Vous êtes présente ici à Marseille. Vous rencontrez des personnes qui viennent vous voir en recherche d'emploi ?
Oui. Deux conseillers sont bas à ce forum, ainsi que les autres partenaires de l'emploi, puisque nous partageons une table avec Cap Emploi, avec l'APEC.
Cap Emploi, c'est pour les personnes handicapées. L'APEC, c'est pour les cadres.
Mission locale également.
Et les jeunes.
Voilà, et je crois que. Et nous, forcément. Forcément.
Plus largement, vous le savez, les associations coopératives ou mutuelles recrutent. Est-ce que vous avez senti, vous, au sein des agences de Pôle emploi, un frémissement ou bien plus de cette activité et de ces besoins en recrutement ?
Les besoins en recrutement existent, en tout cas, tout ce qui pour ces métiers. Et c'est aussi pour ça qu'on est présent aujourd'hui.
Pour pouvoir aussi faire passer de l'information et dire que Pôle emploi peut proposer des formations, peut proposer des stages et évidemment des emplois. Alors ça, c'est l'idéal, bien sûr.
Là, vous avez fait vous avez un petit peu présenté notre offre de service. Effectivement, il y a des stages, il y a des emplois, il y a des aides, il y a des prestations. Tout ça est mis en place pour accompagner les demandeurs d'emploi et les entreprises.
Et ne pas hésiter à aller voir Pôle emploi si on veut recruter et si on cherche du travail. Merci beaucoup Virginie Séclé de cette intervention. On va, s'il vous plaît, faire une petite pause musicale qui nous permettra de changer un petit peu notre plateau. Et puis vous savez que Marseille oblige, nous sommes ici à Marseille, nous allons écouter un extrait du dernier album des Massilia Sound System qui fête cette année leurs 30 ans d'existence. Le morceau que je vous propose d'écouter, L'Eligite. On se retrouve tout de suite après.
Luna sfuggì e la chiesa nega e si caccia in pega l'uno e stelle G la disien che si non sui San Fiji. Tu lo giuro, ti fa le promesse, ti canta la messa, me le decidi. Laura Renti ne fa le scommesse, so che ti interessa, est de mai grossi. Fantero davan vocalizo, dalle fraternizo e me le più pulì. Lu vacchi, lu re dell'embrouille, che senza vergogna ti parlo d'avenir. Tu mon beau, ton futur s'enrouille, mentre che patrouille din se jouer Marie. Si batte le ta vida e già mai a chi velo ti pelle cava marido li d'un pa de rido putta siamo lì paure popole l'anno do si passa tuccio di la nasa che va e passi tutti che se che lo tre strassa e la si prelassa uru se confi o bonne mer.
Massilia Sound System en direct sur Fréquence Mistral. Retour en plateau, je vous rappelle que nous sommes en direct aussi de l'hôtel de région à Marseille où se déroule un forum sur les métiers de la mutualité. Nous en avons largement parlé dans la demi-heure précédente. Maintenant, nous allons aborder un autre volet, plus particulièrement l'économie sociale et solidaire et le fameux mois de l'ESS. Avec nous en plateau, le directeur de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, PACA, David Ekel. Bonjour David.
Bonjour à toutes et bonjour à tous.
On peut rappeler d'abord brièvement, David Ekel, ce que pèse l'économie sociale et solidaire en matière économique en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Alors, s'il n'y avait qu'un chiffre à retenir, je pense que c'est celui-ci. C'est en PACA, une personne sur 10 travaille dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire.
Que ce soit mutuelle, association, coopérative ou fondation.
Complètement, que ce soit dans une entreprise qui, à un moment, adopte des statuts différents. Mais des statuts qui ont des points très communs, notamment comme point commun, d'une part, de s'appuyer sur un système de prise de décision qui associe dans l'entreprise à la fois l'effectif salarié, mais également l'effectif bénévole ou sociétaire. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, on a des usagers d'un service qui sont à la fois consommateurs, utilisateurs d'un service, mais à qui on propose également de venir participer au système de décision et donc d'influencer à un moment la manière dont le service leur est délivré.
Ce sont souvent aussi des emplois de services et qui servent les territoires, des emplois non délocalisables.
Alors oui, des emplois non délocalisables parce qu'on est en fait dans des activités de grande proximité où ce qui se joue, c'est la réponse aux besoins de la population. Et la meilleure manière de répondre bien aux besoins d'une population, c'est d'être au plus près d'elle. Et donc nos entreprises ont cette particularité d'être très ancrées dans leur territoire et de ne pas avoir des stratégies à un moment de développement économique, d'externalisation ou d'extension hors de leur territoire de proximité.
David Ekel, cette année 2014 est une année marquée d'une pierre blanche pour le secteur de l'économie sociale et solidaire, puisqu'on a eu une loi spécifique dans le secteur d'activité, ce qui est historique. Les CRES ont d'ailleurs participé à l'élaboration de cette loi.
Alors oui, on a maintenant le bénéfice d'une loi cadre dite sur l'économie sociale et solidaire. Donc une loi, c'est un moment, un cadre donné à une politique publique au niveau national. Avant de parler des CRES, juste peut-être donner les cinq grands enjeux de cette loi sur l'économie sociale et solidaire. Le premier des enjeux, c'était reconnaître la part que les entreprises de l'ESS occupent à un moment dans la production de croissance et de valeur ajoutée en France. Jusqu'à maintenant, l'ESS, nos entreprises, n'avaient pas pleinement cette reconnaissance. Donc un des premiers enjeux de la loi, c'est dire les entreprises de l'ESS, comme les autres formes d'entreprises, participent à créer de la valeur dans les territoires et en tant que tels, c'est des acteurs économiques. C'est le premier enjeu de cette loi. Et enfin, on a ce cadre national qui donne cette reconnaissance à nos entreprises. Ensuite, parce que les entreprises de l'ESS ont ce que moi j'appelle des externalités positives. Alors c'est un mot un peu bizarre. Je vais l'expliquer. Si on regarde la manière dont les entreprises, depuis 20 ans, participent à la création d'emplois en France, dans les 20 dernières années, le type d'entreprise qui crée à un moment, qui continue à créer de l'emploi et qui n'en détruit pas, ce sont les entreprises de l'ESS. Donc la volonté du législateur au travers de la loi sur l'ESS a été de dire à un moment, il faut qu'on accompagne encore davantage ces entreprises dans leur développement. Parce qu'elles créent aujourd'hui de l'emploi et que dans des contextes à un moment d'arbitrage économique, elles font des choix de gestion qui ne portent pas, ou en tout cas moins, sur des arbitrages liés, on va dire, au dégraissage, pour dire rapidement les choses. Et elles vont, par exemple, limiter leurs bénéfices, limiter leur mise en réserve. Mais le facteur, à un moment, ressources humaines dans l'entreprise, n'est pas le premier volet de leur arbitrage de gestion. Ça, c'était le deuxième enjeu de la loi. Donc accompagner le développement de nos entreprises par un certain nombre de mesures pour qu'elles puissent croître et, dans leur croissance, créer de l'emploi. Le troisième, c'est un peu peut-être plus complexe à expliciter en 30 secondes sur un plateau, c'est le législateur a souhaité, à un moment, qu'on puisse s'interroger sur la manière de faire l'entreprise. Et le législateur, au travers de cette loi, fait la promotion de ce qu'on appelle une bonne pratique de l'entreprise de l'économie sociale et solidaire, qui est basée à un moment sur la mise en avant de règles de fonctionnement de l'entreprise qui sont un peu nouveaux. Alors pas pour nous, acteurs de l'ESS, parce que ça fait maintenant plus de 80 à 100 ans qu'il y a une pratique de nos entreprises autour de ces modes de gestion. Mais c'est par exemple ce que j'ai explicité tout à l'heure, avoir une gouvernance qui, à un moment, n'est pas laissée aux seuls actionnaires de l'entreprise. Donc c'est d'autres processus de décision. Donc ça, c'est le troisième enjeu de la loi sur l'ESS, c'est de faire la promotion d'une forme d'entreprise qui ne soit pas l'entreprise dont tout le monde, quand on demande à quelqu'un qu'est-ce qu'une entreprise, si la personne a un peu de connaissance, elle va dire bah, c'est une société à responsabilité limitée, c'est une société anonyme. Bah, la loi dit non. Il y a une autre pratique aujourd'hui possible de l'entreprise. C'est un grand pas en avant parce que c'est aussi une autre manière de concevoir l'économie. Enfin, quelque chose qui est important aujourd'hui par rapport à la problématique de croissance de notre pays, la majorité des politiques d'investissement en France et en Europe sont orientées sur l'innovation technologique. La loi sur l'ESS introduit une autre notion qui est celle de l'investissement en faveur de l'innovation sociale. Et donc, en fait, elle dit aux entrepreneurs. Aujourd'hui, vous pouvez créer de la valeur, pas simplement en innovant technologiquement, vous pouvez aussi faire de l'innovation sociale. Donc à un moment, faire promouvoir de nouveaux usages, promouvoir de nouveaux circuits de production pour créer de la valeur. Et donc on va avoir, à la faveur de la loi sur l'ESS, un ensemble de mesures qui favorisent l'investissement dans le champ de l'innovation sociale. Et enfin, le cinquième enjeu de cette loi sur l'ESS, c'est en fait permettre un accès à des financements dédiés à nos entreprises, de manière à ce que dans leur problématique de croissance, elles puissent trouver des outils de financement qui soient adaptés à leur problématique. Ce sont ça les cinq grands enjeux, à mon sens, de la loi sur l'ESS.
De cette fameuse loi historique. Denis Philippe avait envie de réagir brièvement. Denis, s'il
vous
plaît.
Oui, rapidement, dire moi ce que je vois d'important aussi, c'est qu'autant la loi consacre une représentation nationale des entreprises de l'économie sociale et solidaire par la Chambre française de l'économie sociale et solidaire, mais la loi aussi reconnaît un rôle important aux chambres régionales de l'économie sociale et solidaire qui seront demain véritablement les interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics et des autres composantes économiques de la région, et que véritablement nous inscrivons actuellement, la Chambre régionale, dans une volonté dynamique d'expansion, de développement, en nous appuyant au départ de la loi, de faire véritablement demain une chambre qui porte bien, qui fédère bien les entreprises de notre région.
Un petit peu à l'image des chambres consulaires, peut-être ?
Oui, vous savez, la consularité, il faut le savoir, on est passé à deux doigts de la consularité. Les chambres auraient pu être consulaires si elles avaient été toutes en état de marche. Et il faut le dire, elles ne l'étaient pas. Elles ne l'étaient pas. Il y avait, on peut le dire, au niveau national, autant de chambres, autant de statuts qu'il y avait de régions. Et bien cette étape-là, tiens, je prends le pari avec vous, François, cette étape-là, c'est véritablement le chantier de demain pour la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire dans cette région.
À suivre donc. Merci Denis Philippe. David Ekel, avant de parler du 12e mois de l'ESS, on s'attend actuellement à un grand renouvellement générationnel dans le secteur associatif, mutuel, etc. Est-ce que les associations, les coopératives et les mutuelles s'y préparent ?
Alors oui, elles s'y préparent. Un chiffre peut-être pour se donner une idée des volumes qui sont en jeu. Grâce à notre observatoire régional de l'économie sociale et solidaire, on a mesuré les départs à la retraite à l'horizon de l'année 2025. Et c'est près de 47 000 départs à la retraite dans les entreprises de notre région dont on peut faire la prévision, c'est-à-dire plus de 30% de l'effectif salarié de nos entreprises. Alors oui, nos entreprises s'y préparent par différents moyens, à la fois par aujourd'hui un accroissement de leur professionnalisation en matière de gestion prévisionnelle de leurs ressources humaines, en travaillant sur l'attractivité de leur métier, et un événement comme aujourd'hui y participe largement, et également aujourd'hui en cherchant à travailler sur la construction de trajectoires professionnelles entre métiers de l'ESS, afin de permettre à un jeune, par exemple, de rentrer dans une entreprise et de continuer son évolution à la fois dans cette entreprise-là, mais peut-être dans une autre entreprise de l'ESS, du territoire, dans lequel il pourra à un moment trouver la même gouvernance, en tout cas la même gouvernance, le même attachement à un moment à certaines valeurs dans le fait de travailler dans une entreprise.
Développer des projets professionnels et un plan de carrière aussi à l'intérieur du même secteur. David, brièvement, le mois de l'économie sociale et solidaire, c'est la 12e édition du mois de l'ESS, opération aujourd'hui nationale. Elle a été initiée ici à Marseille, il faut le rappeler. Que va-t-il se passer pendant ce mois de novembre, un petit peu partout dans nos territoires ?
Alors on a et il faut le saluer, on a une très très belle édition. Pour cette 12e édition du mois de l'ESS, il y a près de 90 événements qui, pendant 30 à 40 jours, s'organisent dans tous les territoires. Et tout à l'heure, on a dit que l'ESS était une économie de la proximité. Donc ces événements, ils se passent au pied de chez vous. Regardez le programme du mois de l'ESS. Vous trouverez dans votre proximité, à mon sens, à moins de 25-30 km de chez vous, un événement qui est porté par une entreprise de l'ESS. Alors, soit au moyen d'un ciné-débat, soit au moyen d'un stand dans une foire qui fait la promotion de l'ESS, soit la création d'un village de l'ESS. Mais partout, sur l'ensemble des territoires, en région, on trouve des petits ou gros événements qui font la promotion de nos formes d'entreprise.
Avec des forums, des foires, des manifestations diverses. Donc restez curieux. Peut-être appeler le site du mois de l'ESS, David, qui permet à la CRES PACA justement de faire passer toutes ces informations. Un site particulier, particulièrement complet et qui a évidemment beaucoup de visiteurs sur le mois de l'ESS en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Alors le mois-ess.org. Et le tiret, c'est le tiret du 6, donc c'est celui qu'on dit du milieu.
Tout simple. Merci David Ekel. À très bientôt. On a des témoignages de personnes qui sont présentes ici à ce forum et qui vont être aussi, je l'espère, pertinents. J'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Favoreau, qui est responsable des ressources humaines Mutuelle de France Plus. Bonjour Sandrine.
Oui, bonjour.
Vous avez un besoin vous-même dans votre entreprise en recrutement?
Oui, actuellement, nous avons des besoins de recrutement, principalement sur des métiers qui ne cessent d'évoluer et de prendre une part de plus en plus importante, qui sont les métiers du téléconseil, avec effectivement des recrutements de téléconseillers, soit en appel de fidélisation ou de relations adhérents, soit en appel sortant, plus de prospection et de développement commercial.
Sur quels endroits vous recrutez ?
Alors nos plateformes sont principalement situées sur les Bouches-du-Rhône, donc sur Marseille et sur Aubagne.
Et vous avez un nombre déjà de personnel défini que vous allez recruter ?
Actuellement, nous avons 4 à 5 personnes à recruter voilà, dans les jours qui viennent.
Donc on peut s'adresser aux Mutuelles de France Plus. On peut
Tout
donner vos coordonnées justement ?
Oui, bien sûr. Donc, Sandrine Favoreau. Le téléphone, c'est le 04... 78 0 j'ai un trou de mémoire, je suis désolée.
Il y a un site internet probablement, oui. Mutuelle de France Plus.
Alors il y a même une boîte mail qui voilà. Est recrutement@mutuellefranceplus.fr.
Et puis il faut aussi
la personne peut nous adresser.
Il faut aussi que les demandeurs d'emploi se bougent de leur côté pour
oui,
pouvoir.
Oui, tout à fait. Mais nous avons aussi le site internet sur lequel nous essayons de communiquer régulièrement sur les postes à pourvoir. Voilà, ils peuvent tout à fait nous contacter par ce biais-là.
Merci Sandrine Favoreau et puis bonne fin de forum puisque ça dure encore
Merci
quelques heures ici même à Marseille. Une autre invitée à nos côtés, il s'agit d'Alel qui est une jeune femme de 26 ans. Vous êtes une visiteuse de ce forum, vous travaillez déjà dans l'ESS. Bonjour d'Alel.
Bonjour.
Et vous avez des projets aussi de développement pour vous-même.
Tout à fait. Donc actuellement je travaille sur Aix-en-Provence et donc j'ai entendu parler de ce forum via le salon de la paix qui s'est déroulé au Pasino d'Aix-en-Provence et donc je suis venue par curiosité parce que j'ai envie de me renouveler, je pense que c'est important dans ce secteur-là pour pas lâcher prise, pour pas en avoir un petit peu ras-le-bol au bout d'un moment parce que c'est un métier qui est usant, travailler sur de l'humain. Donc moi je travaille en tant que coordinatrice dans un secteur de service à la personne. Ça me convient, mais là j'ai besoin de me renouveler parce que la politique de ma société actuellement ne me convient pas. Il y a des choses qui ne vont pas et pour moi il est important que je puisse servir à quelque chose et je pense que l'ESS peut m'aider peut-être à évoluer, à pouvoir m'en sortir autrement dans mon travail et à trouver une dynamique plus importante. Voilà, donc le forum est très intéressant pour moi. J'ai rencontré des gens intéressants, des exposants qui ont retenu ma candidature et donc j'attends des nouvelles avec impatience parce que j'ai besoin d'évoluer aujourd'hui.
On l'espère avec vous. Vous avez une formation particulière dans votre secteur d'activité ?
Oui, j'ai une licence professionnelle coordonnateur référent secteur gérontologie. Donc je suis spécialisée vieillissement. Mais bon, j'ai des bases de psychologie, de coordination, de management, etc. Enfin, tout ce qui concerne l'encadrement.
Et vous êtes prête à travailler dans l'ESS, donc,
oui,
et de, pourquoi pas, faire carrière aussi dans ce domaine qui est effectivement en plein développement. Hein.
Tout à fait,
vous
c'est
savez.
Bien pour ça que je suis là. C'est parce que je cherche ma place et que je pense que là, on pourra peut-être me donner un poste qui pourra me permettre d'évoluer et de trouver ma place dans ce milieu-là parce que je suis vraiment quelqu'un qui a envie de travailler de manière humaine et sociale et je pense que l'ESS peut m'aider à évoluer là-dedans. Ouais.
On l'espère avec vous, Dalel. Et en tout cas, vous avez montré votre motivation et c'est une bonne chose. Merci aussi d'avoir participé, comme les autres personnes, à ce plateau radio. Je me tourne maintenant vers notre témoin clé de cette émission, de Denis Philippe, vice-président de la CRES et puis également militant de la mutualité, bien sûr. Vos commentaires sur cette émission et ce qui s'y est dit, Philippe, Denis.
Je voudrais commenter juste l'intervention de cette jeune femme qui me semble importante. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que travailler, c'est bien, on a besoin de travailler pour différentes raisons, mais donner du sens à l'action qu'on mène au sein d'une entreprise, c'est important aussi. Et je le disais, on assiste véritablement chez les jeunes à un intérêt d'utilité de l'action qu'on mène. On n'est plus dans la même logique. On revient, je pense, à des fondamentaux. Le vivre ensemble prend une dimension différentes. Et ce tournant-là, moi, je le vis, je le sens, je le ressens. Et je pense que notre orientation, nous, nos entreprises, on doit véritablement répondre à ça. Bien sûr, nous avons des progrès à faire également en matière salariale, nous le savons, mais nous avons des entreprises. Je pense particulièrement au monde de la mutualité. Il faut savoir que, par exemple, dans la mutualité, si on prend la moyenne des salaires, on est en mutualité à 5% au-dessus de la moyenne des salaires du privé, on est à 16% de plus des salaires moyens de la fonction publique. Je veux dire, il y a une réelle attractivité de métiers qui ont un sens. On voit aujourd'hui des collaborateurs qui veulent bien apporter leur expérience. Souvent, ils ont des niveaux élevés, importants, mais ils ne veulent pas être que de simples acteurs. Véritablement, il y a une volonté d'être associé à une démarche. Et là, sur ce champ-là, dans cette perspective-là, véritablement les entreprises de l'économie sociale, on peut faire de la différence, on donne du sens.
Est-ce qu'on peut éventuellement aussi parler de transition générationnelle? Parce qu'on l'a vu, David Ekel le disait tout à l'heure, 30% du personnel de l'ESS va être à la retraite prochainement. Est-ce qu'il y a une transmission des savoirs, comme on dit dans l'artisanat par exemple?
Il faut le faire, il faut l'organiser. Il faut l'organiser, véritablement, et on est dedans, et la Chambre y travaille. David l'a abordé tout à l'heure, c'est véritablement le travail que fait actuellement la Chambre. On va être dans l'action nationale, c'est-à-dire on va être après le baby-boom, on aura le papy-boom, et on va avoir des départs dans tous les secteurs d'activité. Nous aussi, nous devons accompagner ça. Et ce qui est important de ce qu'a dit David, c'est que véritablement, le rôle de la Chambre demain, c'est de permettre, et ça c'est important, à quelqu'un qui serait dans une entreprise de l'ESS, et c'est votre cas, de pouvoir passer dans une autre entreprise dans le cadre de son processus de développement et de carrière. Ça, c'est important. Je pense aussi que ça doit faire partie de notre action. Maintenant, disons-le aussi, il ne faut pas opposer les entreprises de l'économie sociale et solidaire aux autres entreprises. Véritablement, je crois aussi que nous pourrons demain, avec d'autres acteurs, d'autres entreprises, co-construire des actions. Véritablement, il nous faut affirmer ce que nous sommes. Mais nous ne sommes pas en opposition à d'autres acteurs. Nous devons véritablement prendre toute notre place, défendre toute notre place, mais cette défense ne doit pas participer d'une récupération politique qui voudrait que les entreprises de l'économie sociale et solidaire soient opposées à d'autres acteurs. Moi, je crois plus qu'il faut nous affirmer, démontrer que nous sommes des entreprises, que nous participons au développement et au rayonnement économique de notre région, que nous créons des emplois, mais que nous ne sommes pas en opposition, ce serait nous faire perdre du temps. Organisons-nous, et nous avons l'occasion avec la loi de nous organiser au sein de notre propre chambre, sur des dénominateurs communs, construisons, devenons véritablement des chefs d'entreprise, mais des chefs d'entreprise différents.
Il y a quelques années, quand on disait « entreprise » dans le secteur associatif, c'était un gros mot. Maintenant, ça n'est plus le cas et c'est une bonne chose, car effectivement, on l'a vu avec l'intervention de Michel Trégan, la réalité économique est là et les entreprises associatives, mutualistes et coopératives font un travail remarquable qui est salué par les élus politiques. Comment, cher ami, faire en sorte que les jeunes puissent non seulement évoquer une carrière professionnelle dans l'économie sociale et solidaire, mais aussi un pouvoir décisionnel dans leur propre structure associative, coopérative ou mutuelle?
Alors, d'abord,
comment
les
motiver?
Je pense d'abord que ça passe par la formation, mais là, il y a de gros, gros, gros progrès qui ont été faits. Aujourd'hui, l'économie sociale, elle est présente, je voudrais dire, dans le champ de l'éducation, au sein de l'université. Et elle vient expliquer la différence. Et c'est ce qui me permettait de vous dire tout à l'heure que nous savons très bien qu'il y a un intérêt chez les jeunes, pour les entreprises de l'ESS. Ça passe par là. Ça passe par là. Mais ça répond véritablement à un besoin de notre société aujourd'hui. Donc c'est à nous de nous adapter. L'éducation, je serais tenté de dire, elle est par l'information au départ que nous devons donner de notre réalité, des perspectives d'emploi que nous pouvons offrir, et puis après de l'accompagnement. Je veux dire, un acteur de l'économie sociale et solidaire, ça reste quand même un militant. Et souvent dans nos entreprises, nos salariés sont nos premiers militants. À nous de faire en sorte qu'ils soient nos premiers militants, de ne pas les ignorer dans la partie de port de nos valeurs que eux peuvent faire. Il faut véritablement les associer à la démarche. D'avoir une réalité d'entreprise, bien évidemment, mais véritablement une réalité participative.
Et ce sera certainement le mot de la fin. Merci beaucoup, Denis Philippe, David Ekel, et puis toutes les personnes qui sont intervenues pour cette émission. On rappelle de manière pratique le mois de l'économie sociale et solidaire. C'est à partir d'aujourd'hui, puisque c'était aujourd'hui le lancement officiel sur tous les territoires, tous les départements de notre belle région, des activités qui sont proposées par les associations, les coopératives, les mutuelles et les fondations. Ne ratez pas le mois de l'économie sociale et solidaire. J'en profite pour saluer tout le travail du secteur et de ces militants dont parlait Denis Philippe avec beaucoup de flamme tout à l'heure de ce secteur associatif et mutualiste et coopératif sur notre territoire, un territoire qui bouge bien puisque c'est lui-même qui a initié ce mois de l'économie sociale et solidaire. Merci à tous et puis merci aussi bien sûr à aux participants de l'émission, mais à mon équipe qui est présente ici à Marseille, Pascal, Patrice, et à nos collègues également que je salue d'ici même dans les Alpes. On se quitte avec notre générique du jour. On a choisi une musique pas très innocente, Echoes of Harlem. C'est une composition new-yorkaise de Raphaël Imbert, un merveilleux saxophoniste originaire de notre région et qui se produit sur les scènes du monde entier, le saxo en bandoulière et la Provence au cœur. Merci à tous, à bientôt. Musique.